Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite un très bon sabbat. Pour vivre bien, pour vivre correctement, il faut un cadre. Il faut une structure, il faut des normes que Dieu fournit. Dieu fournit le cadre dans lequel on doit vivre. Et c'est le même principe en ce qui concerne la prophétie. Pour bien comprendre la prophétie, il faut comprendre le cadre dans lequel la prophétie se situe, pourquoi Dieu a donné la prophétie, puisqu'une grande partie de la Bible consiste en prophétie. Sinon, ce qui peut se passer, ce qui se passe souvent, c'est qu'avec tous les détails qui existent dans la prophétie, nous n'allons pas forcément comprendre le pourquoi. Pourquoi Dieu a donné la prophétie. Nous, on peut étudier tous les détails et nous pouvons être perdus, nous pouvons être découragés parce qu'il y a des prophéties qui, effectivement, qui sont difficiles. Nous pouvons nous inquiéter inutilement. Et là, de nouveau, je prends un autre principe. C'est le même principe qu'avec ce qui est écrit, par exemple, dans le Nouveau Testament. Il y a, dans le Nouveau Testament, certains livres qui s'appellent les épîtres générales. Les épîtres générales. De l'autre côté, par exemple, il y a les épîtres de Paul. Et c'est dans les épîtres générales, d'où le nom, que nous trouvons décrit très clairement la nature de Dieu. Nous trouvons par exemple dans 1 Jean chapitre 4, le verset 16, que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, on croit que Dieu nous aime. Dieu est amour, c'est défini en toutes lettres. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et nous avons également dans 1 Jean, que nous trouvons 1 Jean chapitre 5 verset 3, un verset que nous connaissons bien aussi, 1 Jean chapitre 5 verset 3, que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si je veux parler des épîtres générales, ces épîtres, Jacques fait partie des épîtres générales, Pierre ainsi que Jean, 1, 2, 3 Jean. Et donc ces épîtres générales nous donnent une base. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et c'est un point de départ. Et après, on peut lire les épîtres de Paul à la lumière des épîtres générales, parce qu'on sait d'office que Dieu est amour et qu'il s'agit donc de, si on aime Dieu, de garder ses commandements. Ça nous donne une vision globale, une vision d'ensemble. Et parfois, d'une certaine façon de parler, nous avons besoin, par rapport à la prophétie, de prendre du recul. Attention, je parle de prendre du recul dans le sens de compréhension. Et le titre, le sujet de mon sermon aujourd'hui, c'est pourquoi la prophétie. Pourquoi la prophétie? Pourquoi un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, donne ces prophéties qui sont parfois très difficiles. On peut se poser la question. Que regardons-nous quand nous étudions la prophétie? Est-ce que, par exemple, on regarde les événements dramatiques, et la Bible nous donne pas mal, est-ce que nous étudions ces événements dramatiques à la fin de notre ère, à la fin de notre époque? Il faut pas oublier que le grand événement qui va éclipser toutes ces prophéties, qui sont effectivement difficiles et dramatiques, que le grand événement qui va éclipser tout ça, se trouve, par exemple, dans Daniel 2, on va appeler avec le statut, où la Bible dit que Nebuchadnezzar a regardé ce statut, un statut immense et d'une splendeur extraordinaire. C'était cette statue qui était immense et d'une splendeur extraordinaire. Ailleurs, quand Satan a tenté le Christ, Satan parlait du royaume du monde et leur gloire. Et effectivement, il y a toutes ces choses-là qui existent. Mais, en regardant Daniel, on va revenir quand même à Daniel chapitre 2, parce que ce qui est important, et sur ce à quoi nous devons avoir le, sur ce quoi nous devons avoir nos yeux fixés, c'est plus tard dans Daniel chapitre 2. Vous vous rappelez, quand la pierre se détache, Daniel chapitre 2 et le verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc, ça va dépasser tout ce qui précède et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Cette prophétie, donc, qui va faire arrêter les autres prophéties, parce que ça arrive après. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Et tous ces événements, tout ce qui est difficile, va se terminer et le royaume de Dieu va s'installer. Et ce sera la reine de Dieu pour l'éternité. À ce moment-là, Jude, verset 2. Les prophéties sont une source, quand on regarde cet aspect-là, les prophéties sont une source de réconfort parce qu'on sait comment ça se termine. Il y aura effectivement à l'avenir une brève période, une période de souffrance que l'homme n'aurait jamais connue, mais cette période sera courte. Est très courte par rapport à l'éternité. Jude, verset 7. Donc, il ne s'agit pas de se voiler la face quant à la réalité des prophéties, mais il faut voir ça dans un contexte, pourquoi la prophétie existe. Jude, verset 7. Jude, verset 7. Donc, juste avant Apocalypse. Jude verset 7, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et des vices contre nature sont donnés un exemple subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés de leur rêverie souillent pareillement le chef. Donc il parlait de situations difficiles. Verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Donc des situations, un moment difficile dans l'histoire de l'homme. Mais malgré le fait que les prophètes et les hommes de Dieu parlaient de ces choses difficiles, il y a aussi des encouragements. Par exemple, le verset 21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant quoi? La miséricorde, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde, et on le voit aussi à travers les prophéties, dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. On voit l'avenir, on ne peut pas comparer une courte période de souffrance, même si c'est de grandes souffrances, avec l'éternité. Nous avons la connaissance du sort final de l'humanité. Malgré toute la souffrance passée que l'homme a connue et malgré toutes les souffrances à l'avenir qu'il va connaître. Un des aspects principaux de la prophétie, c'est de nous montrer la cause et effet. Montrer la cause et l'effet du comportement des êtres humains. Et ceci dans un but. Dans un but. Avant que les événements en question arrivent. Et Dieu nous avertit, Dieu a averti le monde. Et c'est là qu'on voit justement toute la portée, toute l'importance de notre mission collective dans l'Église. C'est que nous devons avertir aussi le monde avec nos moyens, avec le moyen que Dieu nous donne. Parce que s'il n'y avait pas de prophétie, il n'y aura pas de raison pour l'homme de se remettre en question. Il n'y aura pas de raison que l'homme arrête sa façon de vivre qui est mauvaise. Donc le but, c'est bien sûr d'avertir le monde, et le but, c'est aussi par la même occasion d'aider les gens à évaluer leur conduite personnelle à la lumière de la parole de Dieu. Je répète cette phrase-là. Le but, c'est aussi aider les gens, ou aider l'humanité, à évaluer sa conduite personnelle à la lumière de la parole de Dieu. Il y a une raison pour laquelle Dieu donne la prophétie. C'est pas pour faire peur aux gens, hein. Ça, c'est pas du tout ça. Ça nous aide, justement, à se détourner du péché. Si on a les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, nous aider à se détourner du péché, à chercher Dieu. Et quand on cherche Dieu, Dieu bénit. Quand on cherche Dieu, Dieu agit. Donc, cause et effet. Cause et effet. Voilà pourquoi Dieu donne la prophétie. Et il est intéressant de remarquer dans Genèse chapitre 3, nous avons la première prophétie dans la Bible qui est donnée ici dans Genèse chapitre 3. Après que Adam et Ève, justement, ont désobéi à Dieu, et là, on commence à voir cause et effet. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel dit au serpent, donc Dieu parle à ceux qui étaient responsables pour ce qui s'est passé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Un comportement qui a désobéi à Dieu et il y a des conséquences. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc la postérité d'Ève, ça a à voir avec le Christ comme sauveur de l'humanité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront avec ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il était dans un jardin avant. Maintenant, une situation qui est complètement différente, beaucoup plus pénible. Enfin, plus pénible, non, pénible, parce que le jardin, ce n'est pas pénible du tout. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie et il produira des épines et des ronces. Je sais qu'à la maison, si je ne sais pas quoi faire au jardin, il suffit que j'aille chercher des ronces et je vais en trouver. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Et bien sûr, j'ai parlé aussi d'un sauveur. Ça, c'est les conséquences, bien sûr, la pénalité ici, les conséquences de désobéissance, avec la souffrance qui commence pour l'humanité dans son ensemble. Il est aussi question dans ces quelques versets, enfin un de ces versets, d'un sauveur, parce que nous pouvons être pardonnés, nous pouvons faire volte-face et nous pouvons aller dans l'autre direction. Ce concept de cause et effet est très bien illustré dans Deutéronome chapitre 28. Dans Deutéronome chapitre 28, où il y a des conséquences positives, et des conséquences négatives dans un contexte prophétique. Et c'est quelque chose, si on veut bien comprendre les prophéties, c'est quelque chose qu'on peut prendre comme quelque chose de base, fondamental, qui nous aide à comprendre d'autres prophéties. On peut regarder d'autres prophéties à la lumière du Deutéronome chapitre 28. Ça nous aide à beaucoup mieux comprendre. Donc, Deutéronome chapitre 28, on l'a cité si souvent dans l'Église, c'est le chapitre où il parle de bénédiction et de malédiction. Il y a aussi, bien sûr, Lévitique chapitre 26. Et tout ceci en fonction du comportement. Obéir ou ne pas obéir. Et obéir se trouve à travers ce chapitre, à plusieurs reprises, et c'est un mot clé. Et comme j'ai dit, c'est aussi un chapitre qui parle de la prophétie, parce que Dieu dit ce qui va arriver en fonction de l'obéissance, et ce qui va arriver si on n'obéit pas. Ici, le sujet, c'est Israël, il s'adresse à Israël, mais c'est un principe, bien sûr, qu'on peut extraire, pas uniquement pour Israël. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. C'est futur, c'est donc quelque chose qui va arriver par la suite. Et Dieu précise ce qui va arriver, c'est donc prophétique. Il te prescrit aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront en partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 13. Il y a le mot si et il y a le mot obéir. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. On sait que c'est pas souvent qu'Israël, dans son ensemble, a obéi à Dieu et qu'elle a récolté ses bénédictions. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Et ensuite commence donc toute une liste de bénédictions. Comme je dis, Dieu prédit l'avenir ici en fonction du comportement, en fonction du comportement. Et puis à l'autre côté de la médaille, verset 15, la liste est beaucoup plus longue. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. De nouveau, tes prophéties, si on n'obéit pas, si Israël n'obéissait pas. Verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi, viendront, donc futures. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois que je te prescris. Verset 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, et toi et ta postérité, etc. Pour revenir au verset 16, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Donc, toute une liste de malédictions. Conséquences positives, conséquences négatives. Et il faut comprendre, quand on regarde les prophéties, que l'homme, si souvent, s'afflige lui-même. Il est l'artisan de ses propres malheurs. C'est presque comme s'il écrivait lui-même certaines choses à l'avance. Nous avons par exemple 2 Timothée chapitre 3 verset 1. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Donc, un aspect de la prophétie, c'est quelque chose, la prophétie nous montre de cause et effet dans un but. Le but, c'est que les gens puissent évaluer leur conduite personnelle à la lumière de ce que Dieu dit. De Timothée, chapitre 3, verset 1. De Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On le voit bien de nos jours, à quel point les choses deviennent de plus en plus difficiles. Verset 2. Car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, la liste est longue et la liste est difficile. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ça décrit de plus en plus notre société, et c'est presque comme si l'homme avait écrit ses prophéties dans le sens que l'homme se gère de moins en moins bien. L'homme sait se gérer de moins en moins, avec donc des conséquences, avec des conséquences. On voit l'énervement volant, on voit même les codes de la route qui est de moins en moins respecté dans certains domaines. Galates chapitre 6, verset 7 dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et tout ça dans un contexte où l'homme est de moins en moins disposé à changer, que l'homme ne veut pas changer. Pourtant, c'est marqué dans le psaume 25 que nous chantons, que Dieu, il montre la voie aux pécheurs. Il montre aux pécheurs la voie. Il montre aux pécheurs la voie. La prophétie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle révèle donc les conséquences d'obéissance et de désobéissance. Les conséquences d'obéissance et de désobéissance. Automatiquement, les choix que nous prenons, le choix que l'humanité prend, les actions de l'humanité ont des conséquences. Et une des plus grandes erreurs de l'humanité, c'est de penser qu'il peut vivre comme il entend, sans qu'il y ait des conséquences. Il y a inévitablement des conséquences. Et Dieu veut que nous comprenions les conséquences douloureuses qui suivent automatiquement quand nous choisissons la mauvaise voie. Mais en parallèle avec ceci, il y a d'autres passages qu'on peut lire. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. On vient de le voir au début du sermon, Dieu est amour. Dieu n'est pas cruel. Dieu ne veut pas que les hommes souffrent. Et Ézéchiel chapitre 33, verset 11, c'est très explicite ce que Dieu dit. Il dit à Israël, Dieu plaide avec Israël. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dis-le, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et ensuite, quelque chose que Dieu dit avec bien sûr son cœur. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Les prophéties, même les prophètes qui avaient un message difficile à donner, comme Ézéchiel, comme Jérémie, donnaient aussi de l'espoir. Donnaient de bonnes nouvelles du royaume. C'est ce que nous citons si souvent à la fête des tabernacles. Des prophéties qui étaient dures, difficiles, mais il y avait l'autre côté, Ézéchiel chapitre 1. Un exemple, c'est Ézéchiel chapitre 1. On peut trouver le même principe dans Jérémie. On parle de Jérémie, que c'est difficile, mais il y a des passages très encourageants dans Jérémie. Mais prenons ici Ézéchiel, où il y a des prophéties qui sont particulièrement difficiles, sur un plan humain. Ézéchiel chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as suivi mon sanctuaire. Pas tout. Dieu avait averti. Ils étaient responsables. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que ça c'est Ézéchiel 5, verset 11. Parce que tu as suivi mon sanctuaire, pas toutes tes idoles et toutes tes abominations. Moi aussi, je retirerai mon œil et mon œil sera sans pitié. Moi aussi, je n'aurai point de miséricorde. Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi. Et j'en disperserai un tiers à tous les vents et je tirerai l'épée derrière eux. Et à ce moment-là, Dieu dit donc qu'il ne montre pas de la miséricorde. Mais on sait que Dieu est miséricordieux et plus tard, il va y avoir, Dieu va montrer bien sûr sa miséricorde. Et vous comparez ça, qui est difficile, avec, par exemple, Ézéchiel 36, où Dieu parle de mettre un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 37, la résurrection, la vie physique. Ézéchiel 39, je ramènerai les captifs de Jacob, et puis tous les derniers chapitres d'Ézéchiel, où il parle du temple, où il parle, par exemple, d'Ézéchiel chapitre 47, où il y a les rivières qui sortent du temple, que nous avons si souvent cité aussi à la fête des tabernacles, qui montre le millénium, cette période formidable, et donc l'encouragement qu'il nous donne, que Dieu nous donne aussi. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. L'avenir glorieux de Jérusalem. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Important comme verset par rapport à la prophétie, parce qu'il faut aussi situer la prophétie dans ce contexte. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et Dieu a un plan, et les gens vont être ressuscités en fonction de ce plan de Dieu. Je parle ici dans ce sermon de cause et effet. Je réponds à la question, pourquoi la prophétie? En parlant de l'aspect, un aspect principal de la prophétie, le fait de nous montrer la cause et effet. Je n'aborde pas dans ce sermon le sujet des épreuves. Le sujet des épreuves, c'est un autre sujet. Je parle de la prophétie et son lien avec cause et effet. Dieu a averti les hommes, l'humanité, ce qui va se passer à l'humanité si l'homme continue à pécher. Nous avons vu Deutéronome chapitre 28 tout à l'heure. On va regarder deux chapitres plus loin. Il y a un autre principe ici qui illustre de nouveau la conséquence ou les conséquences désastreuses quand l'humanité désobéit à Dieu. Et les conséquences formidables quand l'homme obéit à Dieu. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Comme j'ai dit, de nouveau on peut extraire ce principe. Dieu parle ici à Israël, verset 15. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et ça illustre bien la voix de Dieu parce qu'il y a ces deux voix avec Dieu. La voie d'obéissance, et bien sûr, il n'y a pas que l'obéissance, il y a la conversion, mais qui va vers la vie éternelle, et la voie qui va vers la mort éternelle. À moins qu'on se repente. Alors, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Deux voies. Il n'y a pas que toi, il y a deux voies. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Voilà, c'est ce que Dieu voulait pour Israël, pour son peuple. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 17. Mais seulement, c'est un choix. Il y avait donc, à partir de ce moment-là, la possibilité de prendre l'autre voie. Si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui, donc c'était sérieux, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix. Dieu voulait qu'Israël prenne la bonne voie, mais ils avaient aussi le libre arbitre. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir, verset 20, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourrais demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et à Jacob. C'est l'humanité, en définitive, qui va déterminer. C'est nous qui déterminons pour notre propre vie. Et même dans Lamentations, qui est assez difficile à lire, parce que c'est une période de punition de la part de Dieu, juste après cette période de punition. Et c'est dans Lamentations 3, verset 33, que nous lisons, « Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie, qu'il afflige les enfants des hommes. Des avertissements de la part de Dieu pour attirer l'attention de l'humanité. Le péché nous fait du mal, et ultérieurement, par la suite, le péché nous détruit. Ça, c'est la réalité. Et Dieu veut épargner l'humanité. Dieu ne veut pas détruire l'humanité, Dieu veut épargner l'humanité. Les prophéties, c'est pour nous aider, pour aider l'humanité à changer de voie. Pour aider l'humanité à changer de voie. On le voit bien, je parlais de Jérémie tout à l'heure, en parlant d'avertissement, regardons Jérémie chapitre 26 et le verset 5. On voit bien ce que Dieu veut. On voit bien l'amour de Dieu, comme on a vu au début du sermon, la sollicitude de Dieu. Jérémie chapitre 26 et le verset 5. Alors, on va lire à partir du verset 4 pour situer un petit peu le contexte. Jérémie, chapitre 26, verset 4. « Tu le diras ainsi par l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie et que je vous ai envoyé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme silo. » Mais cette expression dès le matin, d'une forme ou d'une autre, on le trouve à plusieurs reprises. Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, dès le matin. Jérémie 35, verset 15. Jérémie 35, verset 15. On le retrouve ici de nouveau. Et Israël, donc, était responsable. Elle avait entendu les prophètes de Dieu. Verset 15. « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. » Vous n'avez pas écouté. Il y a le refrain que Dieu envoyait ses prophètes dès le matin. Il y a un deuxième refrain ici qu'ils n'ont pas écouté. Qu'ils n'ont pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Vous trouvez ça dans Jérémie 25, verset 3, 25, verset 4 et 35, verset 15, comme on vient de voir. Mais terminons avec 36, chapitre 36, verset 3. De nouveau, on voit ici l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Verset 3. Dieu donne ses prophéties, il inspire ses prophètes. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, avec les prophéties, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. C'est ce que Dieu espère. Il espère que nous, c'est pareil, il espère qu'on change. Quand on a pris une mauvaise voie, reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Et en filigrane, donc, les prophéties de Dieu, nous voyons la bonté et la miséricorde de Dieu. La bonté et la miséricorde de Dieu. Parce que le but, c'est que l'homme change. Et je ne vais pas m'y rapporter, mais dans Ésaïe chapitre 57, verset 16, Ésaïe 57, verset 16, nous lisons ceci. « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. » Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Dieu veut qu'on entende, Dieu veut qu'on prête l'oreille, Dieu veut qu'on l'écoute. Il y a un très bon exemple dans la Bible qui illustre justement la bonté et la miséricorde de Dieu dans un contexte prophétique. C'est le livre de Jonas. Il y a deux livres qui parlent de, dans la Bible, qui parlent de Ninive. Il y a le livre de Jonas, il y a le livre de Nahum. Et c'est différent. Parce que Jonas était écrit avant la captivité d'Israël, et Nahum était écrit après la captivité. Une fois que les Assyriens avaient pris Israël en captivité. Ninive, probablement comme nous savons, était la capitale de l'empire assyrien. Les Assyriens aimaient festoyer, mais les Assyriens étaient d'une grande cruauté. Et les pages de l'histoire les plus sanguinaires, ce sont les récits de leur guerre. Il y avait un roi assyrien, si je prononce correctement, qui s'appelait Ashurnasirpal, qui était d'une cruauté impitoyable. Il persécutait même son propre peuple, qui protestait contre le fait de payer les impôts. Il était d'une cruauté sadique. Et les Assyriens, ils mettaient des anneaux à travers les lèvres et les langues. Ils crevaient les yeux, ils décapitaient, ils volaient la terre, ils faisaient preuve de brutalité, de torture, ils coupaient les membres, et je vous fais grâce d'autres détails qui sont plus pénibles encore. Et la Bible parle de la cruauté. Nahum, chapitre 1, verset 13. Nahum, chapitre 1, verset 13. Nahum, c'est juste après Michée. Et Michée, c'est juste après Jonas. Amen. Ça, c'est, au moins, ça, c'est plus facile à retenir. Comme méthode mnémotechnique. Nahum, chapitre 1, verset 13. Je briserai maintenant le joug de dessus toi. Ceci, c'est une prophétie contre les Assyriens, contre Ninive, mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, après qu'Israël est allé en captivité. Mais on voit bien ici la cruauté de cette nation, de ce peuple. Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens parce que c'était un joug. Chapitre 3, verset 1. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Verset 3. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, peut-être une allusion à l'influence religieuse, pleine d'attrait, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Chapitre 3, verset 19. Il n'y a point de remède, donc c'est la prophétie contre les Assyriens, contre Ninive. Il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle, tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteinte? Il y a une traduction, New Living Translation en anglais, qui traduit ça par cruauté, plutôt que la méchanceté. Cruauté, cette traduction-là, ça donne plutôt le sens, dans un anglais moderne, le sens de ce passage. Mais revenons, voilà donc les Assyriens. Avec leur caractère. Mais revenons à Jonas. Jonas, chapitre 1, verset 2. Jonas, chapitre 1, verset 2. lève-toi. Et Jonas était écrit, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, avant que les Assyriens, Ninive, a pris les enfants d'Israël en captivité. Avant la captivité. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendait à Jaffé, et il trouvait un navire qui allait à Tarsis. Il payait le prix du transport. Et donc, il s'est enfui. Dieu a voulu avertir Ninive, prophétie. Le mot méchanceté là, c'est le même mot que nous trouvons utilisé pour le déluge. La méchanceté des hommes à l'époque du déluge. Vous connaissez l'histoire, vous savez que Ninive, et c'est très rare dans l'histoire de l'humanité, Ninive s'est repentie. Chapitre 3, verset 4. Donc Jonas, il revient à de meilleures dispositions, si je puis dire, après avoir frôlé la mort. Chapitre 3, verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Et nous savons que Ninive s'est repentie. Il a agi. Il avait la méchanceté avec des conséquences. D'après la prophétie de Dieu, il allait être détruit. Et ici, maintenant, changement de cap, changement de situation, Ninive se repent. Et ce qu'on trouve ici, c'est la miséricorde de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, la bonté et la miséricorde de Dieu qui transpire à travers cette prophétie. Verset 8. C'était entier de la part des gens de Ninive. Que les hommes et les bêtes, bon, même le roi était touché, que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qui crient à Dieu avec force, et qui reviennent tous de leur mauvaise voie. Donc, ils reconnaissaient bien qu'ils avaient pris la mauvaise voie, avec des conséquences que Dieu allait imposer, de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains étaient coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas de ces, et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Le repentir. Verset 10. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de la mauvaise voie, il changeait de cap, volte-face. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire, lui a changé d'opinion. Résolu de le faire, et il ne le fit pas. Dieu d'amour et de bonté et de miséricorde. Et si nous changeons à un moment donné, si nous prenons une mauvaise voie, Dieu aussi changera à notre égard. Chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas. Évidemment, Jonas aurait préféré voir Ninive détruite que son peuple détruit. Cela déplut fort à Jonas, il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répond du mal. » C'est de son peuple, il voulait le bien de son peuple. Évidemment, le repentir de Ninive était éphémère en ce sens-là, parce qu'on voit la prophétie plus tard de Nahum, et comme Dieu a aussi donné cette prophétie, ceci, c'est donc après la captivité d'Israël par les Assyriens. C'est ce que nous trouvons donc dans Nahum, chapitre 2, verset 1. Donc repentir, repentir éphémère, c'est ce qu'on constate, point de vue historique. Voici les montagnes, les pieds des messagers. Chapitre 2, verset 1. Les pieds des messagers qui annoncent la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Et là encore, c'était aussi un encouragement pour son peuple. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Prophétie. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse, veille sur la route, Affermis terrain, recueille toute ta force, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob, encouragement, et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés, ils ont détruit le cep. Chapitre 3, verset 1, que nous avons déjà lu. Donc, voilà comme Dieu agit, et c'est aussi en fonction du comportement. Il y a cause et effet. Nous trouvons exactement le même principe par rapport aux époques de l'Église de Dieu. Dieu donne dans les prophéties de cette époque de l'Église, dans l'Apocalypse, Dieu donne des promesses. Certaines promesses qui sont, bien sûr, très encourageantes. Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de mon témoignage, de voir que je lis ça pour ne pas dire de bêtises. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Dans la parole de la persévérance, verset 10. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Promesse formidable, promesse encourageante. Mais aussi, dans Apocalypse 2 et 3, nous voyons un certain nombre de problèmes. Mais ceci, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans un contexte spirituel. Vous savoir avec obéissance et désobéissance. Et dans un contexte spirituel, si certaines choses ne changent pas, effectivement, Dieu dit, à deux reprises en tout cas, sinon, je ferai ceci et cela. Quand l'Église de Dieu quitte le chemin resserré, quand l'Église de Dieu, à une époque donnée, quitte le chemin resserré, Dieu dit qu'il y a des conséquences. C'est une prophétie, ou des prophéties. Dieu parle d'abandonner son premier amour, Dieu parle des doctrines de Nicolaïte, Dieu parle de se livrer à l'impudicité, c'est que Dieu parle de ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ceux qui sont pauvres et aveugles spirituellement. Dieu permet à l'homme de faire comme il entend. Et la prophétie aussi, parce que c'est cause et effet, la prophétie aussi montre que la voie de l'homme échoue. Voilà pourquoi l'homme est averti. Que l'homme échoue, que la voie de l'homme échoue, et aussi qu'il y a la réussite avec le retour du Christ. Quand le Christ revient. Et donc les prophéties incitent à suivre la bonne voie. Dans le millénium, ces prophéties qui sont grandioses, pittoresques, belles, et que nous fêtons chaque année à la fête des tabernacles, il y a la réussite. Dans la quatrième section du livre de Psaume, c'est la section qui parle du millénium. La quatrième section du livre, le quatrième livre des Psaumes, parle de millénium, et qu'est-ce que nous trouvons à plusieurs reprises dans cette quatrième section, quatrième livre des psaumes, l'Éternel règne. Sauf erreur, je pense que ça commence avec le psaume 90, et je crois qu'en français c'est même marqué, oui, livre quatrième, psaume 90. L'Éternel règne, qu'est-ce que nous voyons aussi? Nous voyons le bonheur. C'est donc de nouveau cause et effet. Évidemment, pas dans l'absolu, parce que les hommes, tant qu'ils sont des êtres humains, ne sont pas parfaits. Et dans Ézéchiel 45, verset 20, par exemple, vous voyez les cas de figure où il y a sacrifice d'expiation. Mais le sacrifice de Christ, c'est parce que les hommes ont désobéi. Et parce que les hommes ont désobéi, il y a des conséquences. Et toutes les prophéties, justement, montre cet aspect d'obéissance ou de désobéissance. Et il fallait un sauveur, c'est ce qui nous ramène à Genèse chapitre 3, verset 15. Les prophéties, pour nous, devrait fortifier notre foi et notre courage, parce qu'on sait comment ça va se terminer. On sait comment ça va se terminer, et nous n'avons pas besoin de connaître tout le détail. Peut-être avant, on concentrait trop sur certains détails. C'est bon, de, bien sûr, de connaître les grands événements, mais dans les moindres détails, c'est peut-être pas nécessaire. Marc chapitre 13, verset 7. Parce que de toute façon, on ne sait pas quel est le jour ou l'heure quand le Christ va revenir. Comprendre les événements qui vont arriver, comprendre les prophéties, oui, mais par la même occasion, avoir foi, la foi que Dieu est notre forteresse. Et dans Marc chapitre 13, bien sûr, c'est en parallèle avec Luc 21 et Matthieu 24, dans Marc chapitre 13, nous lisons ceci. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ne soyez pas troublés. Si Dieu est notre forteresse, si Dieu est notre force, il faudrait pas que nous soyons troublés. Il faut avoir la foi et le courage, et la prophétie peut nous aider à avoir cette foi et ce courage en se tournant, parce qu'on connaît l'avenir et on se tourne vers Dieu, en attendant que ces choses se réalisent. Ce qui compte, c'est que nous puissions développer le caractère de Dieu, de devenir comme Dieu. J'ai voulu terminer avec 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Puis par les événements de l'avenir, à l'avenir. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Bon, verset 8 déjà un petit peu pour situer le contexte. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, quand quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Encore un aspect du caractère de Dieu, mais il use de patience envers vous, vous chrétiens, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, le jour du Seigneur dans l'expression prophétique pour les choses à venir, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour les surpasseront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consommée. Et là, il parle des événements qui ont lieu même après le millénium et la période de 100 ans, quand chaque être humain aura eu sa chance, et avant la descente de la Nouvelle Jérusalem. Verset 11. Donc, on connaît l'avenir, on sait que toutes ces choses à un moment donné, vont disparaître ces choses physiques, la nouvelle Jérusalem qui va descendre dans toute sa majesté. Et verset 11, puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, sur un plan physique, qu'elles ne devez-vous pas être par la sainteté et la conduite et par la piété attendant et attend l'événement du jour de Dieu. Parce que tout ce qui va subsister après, ça va être le spirituel. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, ce que nous pouvons garder à l'avenir, ce qui, si nous avons la caractère de Dieu, si nous avons développé la caractère de Dieu, c'est ça qui va rester. Alors, donc, c'est pour ça qu'il dit dans le verset 11, qu'elle ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attendant l'événement du jour de Dieu, de construire, de développer cette caractère de Dieu, en attendant ces événements. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Puisque c'est vrai, puisque les prophéties sont vrais, sont réels, sont certains. Nous, notre travail consiste justement à devenir plus comme Dieu en attendant, comme c'est marqué ici dans le verset 12. Attendant et attend l'événement du jour de Dieu. Attendant et attend l'événement du jour de Dieu par notre comportement.